Bonjour, chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h.
Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs, ravi à nouveau de vous retrouver.
Aujourd'hui, au programme, nous avons un invité, Olivier Lecomte, qui vient de publier un livre qui s'intitule Que cherches-tu? Et donc, c'est un livre qui parle de religion catholique, de la découverte, une sorte de recherche de sens. Je dirais ça comme ça, moi. Donc, vous adressez. D'abord, bonjour Olivier Lecomte, et merci de nous avoir,
Bonjour, messieurs.
d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Votre livre, c'est une sorte de. D'abord, pourquoi vous avez choisi ce titre, Que cherches-tu? Parce que j'ai on a l'impression que vous adressez donc à des gens qui n'ont plus de repères.
Alors, ça peut donner un sens à la vie.
Oui.
C'est ça le but
Qu'est-ce
du
qui donne un
livre.
sens à la vie?
Et parce que la connaissance de Dieu, à partir du moment où on en a vraiment conscience, on a conscience de ce qu'elle nous apporte à nous intérieurement, on se rend compte que ça nous donne vraiment un sens à la vie. Voilà. Alors, qui cherches-tu? C'est une phrase de Jean. Alors, le qui est particulier, et là, c'est la deuxième personne du singulier. Qui cherches-tu? C'est au moment de la résurrection du Christ. Il y a Marie-Madeleine qui arrive devant le tombeau vide, et elle regarde autour d'elle, elle voit un monsieur qu'elle prend plutôt pour pas pour quelqu'un qui va s'occuper des plantes, un
Oui, bien sûr.
jardinier, etc. Et il la regarde, il lui dit, qui cherches-tu? Et là, elle comprend qu'il est ressuscité. Et c'est une vraie réalité. Alors c'est paradoxal parce que ça paraît comme ça invraisemblable, mais c'est une vraie réalité.
Et vous, quand vous dites que cherches-tu, vous considérez que les gens qui ne sont pas encore croyants, qui n'ont pas encore la foi, cherchent quelque chose?
Ben, j'allais dire, la vie, elle est faite d'une certaine manière, mais maintenant, en ce moment en particulier, on est dans une période où beaucoup de gens se posent des tas de questions, surtout sur l'avenir. Ils se posent des
Sont
questions
inquiets.
sur... Ils sont inquiets, oui, à tel point qu'à la limite, il y en a, ils font plus d'enfants, il y en a d'autres, il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. On accepte parfois des choses qui sont invraisemblables parce que dans ce livre, je raconte l'amour. Parce que, comme me disait un diacre l'autre jour, mais c'est un hymne à l'amour, ce livre. Et je raconte, oui, une épopée extraordinaire, celle que nous donne Dieu, Jésus en particulier, par ses textes et par sa vie. Il nous a montré que l'amour était au-dessus de tout. Et c'est vrai que quand on s'approprie l'amour, la vie a vraiment un sens. Parce qu'on comprend non seulement que, bon, on peut aimer et être aimé, mais en plus, on peut aller même plus loin. C'est-à-dire que même quand on a une déviance, quelle qu'elle soit, on peut la racheter, cette déviance. Et on la rachète par l'amour. C'est ça, justement.
Oui.
On la rachète parce que, bon, bah, on va avoir peut-être le sacrement de réconciliation pour ceux qui ont accès à réellement parler. Mais on peut le racheter aussi d'une autre manière. Et cette manière, c'est de donner de l'amour aux autres. Et ça, c'est vraiment le vrai rachat.
Qu'est-ce qui vous a conduit à vouloir en fait écrire, composer cet ouvrage? Et à le composer de la manière particulière dont vous l'avez fait, en fait. D'où vient cette...
Ça m'a été demandé.
Ouais.
Et ça, très clairement, ça m'a été demandé par le bon Dieu. Il m'a demandé de l'écrire, alors que jusque-là, je le racontais à personne. Il y a des gens qui étaient au courant. Il y en a beaucoup qui étaient au courant, enfin quelques-uns en tout cas, puisqu'il y en a à qui j'ai transmis des messages. Alors, il y en a, ben, ils savent même pas. Puis il y en a, ils ont approfondi et puis ils ont gardé un contact avec moi. Et ces personnes-là étaient très heureuse parce que ça répondait à une de leurs questions, alors que moi je savais même pas que ça allait répondre à une de leurs questions, mais je leur ai transmis un message que
C'est
je vais
ça,
leur
parce que souvent
transmettre.
les gens qui sont en quête de quelque chose et qui ne l'ont pas encore trouvé se posent beaucoup de questions, en effet, en général, hein, de manière générale.
C'est ça.
Moi, j'ai discuté parfois avec des convertis au catholicisme ou parfois même convertis au protestantisme. Vous savez, les évangélistes sont très, très dynamiques pour ça. Et en tout cas, ceux avec lesquels j'ai discuté, très souvent, ils me disent qu'avant, il y avait une sorte de... Ce n'est pas venu d'un coup. C'est, ils se posaient beaucoup de questions. Et la plupart, ce qui m'a frappé, c'est que la bascule, enfin, le moment où vraiment ils se sont convertis, c'est qu'après s'être posé des tas de questions, s'interroger, etc., ils ont eu, je reprends leur terme exact, un songe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, avant la conversion définie, enfin la vraie conversion, le passage à l'acte, ils ont rêvé ou de la Vierge Marie ou du Christ. Vous voyez, donc c'est apparu dans leur.
C'est ça. Voilà. Oui, oui.
Ils se sont réveillés. Maintenant, ils ont dit, ça y est, je vais me convertir parce qu'il y a eu quelque chose dans leur sommeil.
Complètement. Et ça ne s'adresse pas qu'aux gens qui ont des traditions catholiques familiales. Il y a des gens, ils cherchent quand même à donner un sens à leur vie et à un moment donné, l'esprit vient dans leur cœur, ou alors carrément, c'est vrai, ça peut être, comme vous avez dit, enfin, ça peut être le Christ, ça peut être Marie, il y a aussi quelques saints, oui. Alors ça, c'est aussi assez intéressant, je connais quelqu'un, c'est Marie-Madeleine, par exemple. Mm-hmm. C'est assez amusant, parce que, et pourtant, elle, c'est la plus belle de toutes au niveau des conversions. Mm-hmm. D'ailleurs, ça me fait penser à l'année dernière, je suis allé Saint-Maximin, qui est dans le département du Var. C'est là où, justement, il y a le tombeau de Marie-Madeleine. Et il faisait, le diocèse qui était là-bas, faisait les confirmations. Et j'ai trouvé ça extrêmement impressionnant, parce qu'il y avait 300 personnes qui venaient se confirmer. Et ils étaient obligés de le faire en deux fois, parce qu'il y en a eu 300 ce jour-là, qui était le jour de la Pentecôte, et il y en a eu 300 qu'ils avaient fait un peu avant, tellement il y en avait des personnes qui se convertissaient.
Alors justement, parce que vous avez devancé ma question, c'est bien.
Je vais poser la même.
Allez-y, Pierre-Henri.
Allez-y, mais en fait, c'est le mot conversion, bien évidemment. Moi, j'allais vous demander déjà si vous veniez, comme vous le disiez, généralement, si vous veniez d'une culture familiale catholique, ou si vous aviez connu vous-même une espèce de processus de conversion ou de reconversion.
Alors, je vais le dire autrement. Je vais dire que j'ai eu une enfance catholique. La messe, le catéchisme, l'aumônerie, etc.
La classique, une famille catholique.
Voilà. Et puis, vers 20 ans, par la force des choses, c'est le paradoxe, mais c'est comme ça, j'ai fait l'armée, j'étais 11e chasseur à Berlin, hein, j'étais volontaire pour aller là-bas. Là, il n'y a plus d'église. Et paradoxalement, je vais dire que j'ai perdu l'habitude, tout simplement, et ça m'est un peu sorti, mais un peu seulement. Et puis après, une fois de temps en temps, j'allais à la messe.
Oui, comme beaucoup de croyants qui ne pratiquent pas de manière régulière.
Voilà, c'est ça. Je ne pratiquais plus de manière régulière. Je faisais les grandes fêtes parce que je me disais que c'était bien de les faire. Et puis, ça a un côté très sympa. Hein. Je peux vous donner un exemple qui me plaisait beaucoup. C'était d'aller à la messe de minuit à Notre-Dame de Laguet, qui est un sanctuaire. C'est un sanctuaire dans les Alpes-Maritimes, c'est un peu derrière Monaco. Et l'avantage de la messe de minuit, c'est qu'après, il faisait un souper qui était très sympa, ce qui fait que tous les ans, je ne pouvais pas le louper, bien sûr. C'était le côté vraiment très agréable de la chose. Voilà, exactement. Voilà, c'est pour vous dire. Et puis après, j'ai continué un peu comme ça. Et un jour, il s'est passé quelque chose de très particulier dans ma vie. C'est-à-dire, Jésus est venu me voir. D'ailleurs, au départ, je ne savais pas que c'était Jésus la première fois. Au départ, je me suis dit, qui est-ce? Et c'était très curieux. Parce que vous imaginez, vous êtes en train de dormir tranquillement, puis vous sentez une présence, vous vous réveillez, et là, vous vous levez. C'est-à-dire, on n'est plus du tout dans le contexte où on n'est pas dans un rêve. Et puis, vous sentez toujours cette présence, mais il n'y a rien. Alors, vous éteignez la lumière, et puis là, il y a une voix. Et cette voix, elle me dit « Sois Jean ». Je rallume, je me relève, je regarde. Bah oui, J'ai même été sur le balcon, on ne sait jamais. Mais je n'avais pas vraiment de doute, mais c'était très curieux. D'autant plus que cette présence, c'était aussi une présence d'amour. C'est-à-dire, je me sentais hyper bien.
Vous n'étiez pas inquiet ?
Non, je me sentais aimé. Mais je ne savais pas. Et puis après, je me suis recouché, j'ai un peu réfléchi, je me suis endormi. Et puis le lendemain, je me suis dit, bon, t'as dû avoir un espèce de truc un peu particulier, un fantasme, bon, c'est pas grave. Et puis 2 jours après, il est revenu. Il m'a dit, sois gentil pour moi. Et sois mon ami. Et là, c'est très compliqué. Parce que là, ce coup-ci, une deuxième fois, j'étais sûr. Et j'avais pas de doute. J'ai fait un signe de croix parce que on sait jamais. La première fois, j'avais fait aussi. Mais parce que donc, je faisais quand même un lien. Hein. Et puis après, je me suis dit, il faut que j'en parle à quelqu'un. Mais je savais pas qui en parlait. Vous vous rendez compte? Je vais passer pour un fou, pour...
Alors, vous en avez parlé à qui?
Et je suis allé à l'église. Et je me suis dit, je vais me faire massacrer par le prêtre. Parce que j'avais cette impression. Et puis j'y suis allé. Je me suis dit, bon, pour qu'il n'en parle pas à l'extérieur, je vais faire une confession.
Ils vont prendre pour un fou.
Oui, c'est ça. Oui. Non, mais complètement. Oui. Et en plus, je me suis dit, je vais lui dire en confession, parce que comme ça, au moins, je suis sûr qu'il n'aura pas à en parler à l'extérieur, etc.
Vous avez pris vos précautions.
Ah oui, voilà. À la limite, oui. Bien réfléchi. Et puis, je lui en parle, il me regarde dans les yeux, et il me dit, vous êtes un mystique. Et d'abord, je ne savais même pas ce que c'était, pour être franc. Enfin, c'était assez abstrait pour moi. Et puis, il me dit, ce serait peut-être le signe d'une conversion, il va falloir creuser ça. C'est-à-dire, il ne l'a pas mis en doute. Mmh. Or, pour moi, je n'avais jamais ni vécu, ni entendu ça. Ce que je veux dire, en soi, ce n'est pas des choses...
Auxquelles vous étiez intéressé auparavant, par vos lectures, etc. Ça venait un peu de nulle part, en fait.
Ce n'était pas là-dedans.
Mais du ciel, le dire. Voilà.
C'était, oui, c'est le mot, oui, c'est le terme exact, à la limite. Et alors donc, après, j'étais très, je me suis dit, comment on va faire? Alors j'ai repris rendez-vous avec le curé de l'église, Notre-Dame du Bon Voyage, qui est à Nice, j'ai été suivre quelques cours de théologie, pour voir. Et puis, j'ai suivi les cours de théologie, et puis, je me suis dit, peut-être la vie monastique, peut-être diacre, pourquoi pas, etc. Et le bon Dieu est venu me voir un jour, il m'a dit, non, parce que j'ai besoin de toi pour autre chose. Et si... tu prends un ministère ordonné, tu t'obéiras à l'évêque, et ça passe avant moi. Parce qu'on est dans le temporel, il faut qu'à partir du moment où tu donnes ton obéissance à l'évêque, eh bien, je ne pourrais plus te demander des choses, parce que s'il dit non après, ça te posera un cas de conscience. Voilà.
Donc, alors, il y a un évêque, pardon, je vous coupe, mais il y a un évêque qui a fait une introduction de votre livre.
Oui.
C'est Monseigneur Ré.
Oui.
Alors, on en va en parler après, puis je vous laisse continuer.
Monseigneur Ré, il faut dire que la première fois que je l'ai rencontré, j'étais à Cotignac.
Oui. Parce que, pardon, je rappelle juste aux auditeurs de Radio Courtoisie que Monseigneur Ré a été l'évêque de Toulon.
Frégis Toulon.
Jusqu'à l'année dernière, je crois, et pendant.
Oui, c'est ça.
Hein,
c'est ouais. Ça.
Voilà, et donc là, il a la retraite, enfin, il est évêque émérite.
Voilà.
Et depuis un an, hein, c'est ça?
À peu près, un an.
À peu près. Et donc, vous êtes. Enfin, on a compris que vous êtes de la région PACA.
Alors, moi, je suis. Enfin,
vous habitez en tout cas là.
Voilà, j'habite à Nice.
Oui. Et donc, pardon, je vous ai coupé, mais parce que vous parlez d'évêque. Alors, vous étiez en train de dire que, oui, il vous a dit.
Voilà. Donc, et après, il m'a transmis une fois de temps en temps des messages. Je suis allé voir les personnes en question. Et ça allait que comme ça. Donc c'était pas très compliqué, hein, pour être très franc. Mais je me suis mis à faire systématiquement les vêpres tous les soirs. Parce que les vêpres m'apportent quelque chose d'extraordinaire. Elles me les apportent encore aujourd'hui, me les ont apportées toute ma vie. Ça fait une coupure dans ma journée. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans la journée, même avec un supérieur hiérarchique, avec un conflit et ainsi de suite, je fais les vêpres et je retrouve ma sérénité parce que je casse ma journée et après, je suis plus dans la même logique. Parce que ça m'a posé. Et donc, je m'endors toujours serein tous les soirs et depuis des années. Voilà. Et c'est un côté assez particulier. Oui.
Et donc, vous avez donc été voir le curé, etc. Et donc, vous avez compris qu'il faut que vous fassiez votre, comment dire, votre devoir, enfin, ce qu'on vous demande.
Votre mission.
Votre mission.
Une espèce de mission, oui.
C'est accéder seul, à ces demandes.
Tout seul. Mais on va faire une pause pour le Bovino. Pour le Bovino. On va reprendre, on va vous interroger sur votre mission.
Je vous en prie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
On reprend donc cette émission sur votre... on parlait de votre mission. Pierre-Henri, vous aviez une question?
Non, justement, en fait...
Alors, je vous laisse... Alors, comment, cette mission, comment concrètement vous faites pour...
pour la mener à bien.
Pour la mener à bien.
Pour la comprendre aussi.
Pour pousser... ceux à qui vous vous adressez, c'est-à-dire tous ceux qui cherchent quelque chose, comme on a dit, à trouver le bon chemin.
Je leur raconte mon vécu, mon vécu d'amour avec le bon Dieu. Et ce vécu d'amour, il est passé par des épreuves, et il passe aussi par des demandes. Mais de toute façon, il m'a demandé de le faire parce que quand on comprend bien, quand on intègre en soi l'amour de Dieu... On ne peut que se tourner vers lui et ça change intégralement votre vie. Même l'amour que vous avez pour vos enfants est décuplé quand vous avez ça.
Alors, ce que vous dites me rappelle, alors je ne l'ai pas lu, je vais parler d'un livre que je n'ai pas lu, mais j'avais lu le commentaire il y a quelques jours. Il se trouve qu'il y a un livre qui est sorti sur la gentillesse et l'amour de l'autre et qui explique, d'après le commentaire que j'en ai lu, parce que je l'ai découvert par hasard, c'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire que l'auteur explique, d'après ce que j'ai lu, que lorsqu'on est gentil et on apporte de l'amour aux autres, ben on est plus serein, et il explique surtout que la gentillesse est toujours perçue comme une sorte de naïveté, de faiblesse, et lui soutient que le contraire. Il dit mais c'est pas du tout une faiblesse, c'est une force.
Ça vous rend fort.
C'est exactement ce que vous êtes en train de dire, oui.
Bien sûr, c'est assez extraordinaire d'ailleurs, parce que l'amour de Dieu, on peut même pas le visualiser tellement il est puissant. Parce que je l'ai vu dans des tas de lieux particuliers, mais à réellement parler, vous savez qu'il sera toujours avec vous, même dans les épreuves, même dans la souffrance. Mais il vous accompagne. Alors, c'est vrai, on a envie de dire, il pourrait enlever la souffrance, mais c'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, il a même souffert, lui, énormément. C'est la souffrance, c'est aussi quelque chose qui nous enrichit paradoxalement. C'est horrible à dire comme ça, mais ça nous enrichit. Parce que non seulement nous, ça nous pose des questions à nous-mêmes, mais surtout les autres qui sont autour de vous, ça leur donne aussi une possibilité d'amour pour vous. C'est-à-dire que ça va dans tous les sens. L'amour, c'est quelque chose qui se partage. Voilà, c'est ça qui est important.
Alors, au fil de votre livre, vous avez raconté en fait des récits de passage ou quasiment de pèlerinage dans certains lieux de culte, en France en particulier, très emblématiques, très symboliques. Et comment vous reliez votre propre expérience à ces lieux-là, qui vous précèdent parfois de très loin dans le temps, parfois des lieux d'apparition aussi d'ailleurs.
Oui, alors les lieux, on partait les lieux, alors... C'est vrai, j'ai fait un pèlerinage un jour qui était un truc, ça m'a complètement dépassé. Parce qu'il m'a dit, il faut faire un pèlerinage parce qu'il faut que tu rencontres des gens. Donc, comme il fallait que je rencontre des gens, je me suis programmé un pèlerinage. Un pèlerinage où j'ai prévu des voyages en train, parce que le but de ce pèlerinage, c'était surtout pas de le faire seul, donc de prendre un bâton et d'aller à travers les chemins, qui sont aussi des pèlerinages formidables pour soi-même, mais c'était de rencontrer des gens. Donc il n'était pas question que je prenne une voiture, il fallait que je prenne toujours des transports en commun. C'était le principe. Et puis, Donc, je suis parti un jour dans ce pèlerinage, et ce pèlerinage, il a été bouleversant. Il a été bouleversant à cause des événements qui se sont passés. Parce que il y a le pèlerinage lui-même, où je suis allé justement, alors j'étais dans des sanctuaires Mario au départ, dans des endroits où il y avait des moines, il y a un sanctuaire marial dans lequel je suis allé, il y avait personne. Plein de monde autour, parce que tous les gens étaient dans la montagne, ça leur plaisait. C'est vrai que la création est merveilleuse, mais à réellement parler, dans le lieu, il n'y a personne. Puis j'ai été dans d'autres endroits où c'était toujours plein à craquer. Parce qu'il y a des lieux où les gens aiment aller, puis il y a des lieux qui leur parlent aussi, hein, faut dire les choses. Parce qu'ils sentent, ils ressentent quelque chose dans certains lieux. Et le lieu dont je parle où il n'y avait personne, ben, on ressent quelque chose, mais les gens venaient pour aller se promener en montagne. Donc, et beaucoup de gens ne savaient même pas qu'il y avait un sanctuaire, justement.
Oui.
C'est ça qui est extraordinaire. Et ça, ça a été le début du pèlerinage. Et puis, le pèlerinage, ben, y a eu, j'allais dire, des endroits où je suis allé. Et puis, un jour, je me suis retrouvé à Cotignac, là aussi. C'est pas là où j'ai vu Monseigneur, c'était une autre fois où je l'avais vu. Mais, quand je suis allé à Cotignac, ben, c'était formidable, parce que il y a le lieu de l'apparition de Saint-Joseph. A priori, c'est le seul lieu où il est apparu. Il y en a peut-être un deuxième, mais très sincèrement. Et puis, c'est un lieu marial, puisque c'est aussi le lieu qui est à la base de la conversion, enfin de la consécration, pardon, de la France à Marie.
Mm-hmm.
Parce que c'est vraiment ce lieu-là, le lieu originel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand j'y suis allé, j'y allais, c'était bien, je faisais mon pèlerinage, je voyais des gens, on parlait de Dieu, on parlait de son amour, on parlait de beaucoup de choses, de nos vies respectives, bien sûr. Et puis, un soir, je me suis couché, parce que je dormais chez une dame, et tous les soirs, quand je me couche, j'éteins le téléphone. Pour pas être dérangé par un message, par un bon. Et puis le lendemain matin, quand j'ai remis le téléphone en route, j'avais pas loin de 100 messages de gens qui prenaient de mes nouvelles, de celles de ma famille, mais aussi des gens qui me disaient nous allons bien, nous est bon, etc., etc. Et là, c'est vrai, c'était le 15 juillet, et la veille au soir, il y a eu l'attentat de Nice.
Ah oui.
Et ça a été très dur. Mon épouse était à Nice. Mon fils était directeur de colonie de vacances, mais à Nice, enfin dans une petite montagne à côté. Et il aurait très bien pu emmener les enfants voir le feu d'artifice. Oui. Faut imaginer le drame que ça aurait été. Bon, puis ma fille était à Nice aussi. Donc moi, j'avais ma famille là. J'étais à Cotignac, je me suis quand même posé des questions un peu en me disant « Mais bon, ça va, je vais arrêter le pèlerinage, je vais rentrer, ils ont besoin de moi. » Parce que c'est vrai qu'ils étaient quand même quelque part dans la détresse, parce que ça a été
un choc,
oui, terrible,
un choc
terrible,
monstrueux, ouais, pour les gens qui étaient là-bas. Et ceux qui n'étaient pas sur la promenade des Anglais, il faut s'imaginer aussi que quand ils avaient peur qu'il y ait un deuxième attentat, et quand ils ont vu les gens courir à travers les rues, ils se sont tous cachés. Ça a créé une sorte de panique générale sur une ville entière. C'est pas anodin du tout, en soi. Et donc, j'ai eu mon épouse plusieurs fois au téléphone. Elle m'a dit, non, accroche-toi, c'est le moment. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu continues ce pèlerinage, parce que on en a besoin.
Oui.
Et la France en a besoin. Et ce pèlerinage avait sa vocation pour la France. Et ensuite, le bon Dieu m'a dit, mais ce pèlerinage fait un deuxième pèlerinage à l'intérieur pour que le roi revienne, le roi étant, entre autres, le Christ aussi, il ne faut jamais l'oublier, hein, c'est lui le vrai roi de France. Donc il faut que les gens reviennent. Ils reviennent à la conversion, ils reviennent à tout ça. Et là, j'ai fait donc un double pèlerinage, ce qui est assez, au niveau de la prière, ça multiplie, hein, bien sûr, Mais et après, je suis parti et j'ai suivi mon chemin jusqu'à Lyon. Et à Lyon, il y a eu... Donc j'ai rencontré des gens, hein, bien sûr, ça je le raconte. Et je raconte aussi des choses qui m'ont des fois choqué, hein, qui n'étaient pas faciles à vivre. Et à Lyon, il y a eu la journée, justement en hommage à ce qui s'était passé à Nice. Mmh. Et ce jour-là, je devais aller voir le prêtre qui est aux alentours de Lyon, qui est l'exemple pour tous les prêtres.
Le curé d'Ars.
Le curé d'Ars, le Saint curé d'Ars, voilà. Donc je devais aller, justement, et je n'ai pas pu y aller parce que le bon Dieu m'a dit non, tu restes, et tu restes à Lyon.
On arrive à la fin de cette émission.
Alors, je rappelle que vous avez une introduction de Monseigneur Ray, donc dans votre.
Et de Charles Emmanuel de Bourbon-Parme.
Qui a fait la préface. Charles Emmanuel de Bourbon-Parme qui a fait la préface. Et
on rappelle les références. Donc merci encore, hein, Olivier Lecomte, pour votre ouvrage Qui cherches-tu aux éditions Godefroid Bouillon. Et on espère que les auditeurs seront nombreux à avoir été intrigués et séduits par votre récit, et ils pourront trouver ce livre dans toutes les bonnes librairies et sur Internet. Et on remercie tous les auditeurs.
C'est moi qui vous remercie.
Et on se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro de Culture et Politique.
Merci, à bientôt.